Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h sur Campus Grenoble, 90.8.
Valentin Maillot-Borny.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous êtes à l'écoute de Microcité, votre rendez-vous d'actualité du vendredi après-midi. Il est 16h30 et comme chaque semaine, on se plonge tout de suite dans une demi-heure d'information. Dimanche soir, c'est la finale de la Coupe du Monde de rugby organisée en France. Elle oppose la Nouvelle-Zélande et les tenants du titre sud-africains, l'occasion de revenir sur les moments marquants de la compétition et dresser le bilan. Le mois d'octobre, c'est aussi Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein. Comment se reconstruire après cette épreuve? Amélie Grazzi a une solution. Elle tatoue des mamelons aux femmes qui ont eu une ablation. Mais d'abord, c'est le journal avec Joshua Métivier. Bonjour Joshua.
Bonjour Valentin.
Elisabeth Borne cherche des réponses après les violences urbaines de juin dernier.
La première ministre s'est rendue dans les Yvelines ce midi. Elle a dévoilé des mesures sociales pour venir en aide aux quartiers populaires. Il manque des animateurs dans les centres de loisirs. Alors que 12 millions d'élèves sont en vacances, les communes et les parents cherchent désespérément des volontaires pour encadrer les enfants. Le nouvel album d'Astérix et Obélix est sorti hier, une nouvelle aventure des irréductibles Gaulois, très attendue par les librairies.
Mais d'abord, les bombardements continuent à Gaza après une deuxième incursion de chars israéliens cette nuit.
Avec l'appui d'avions de chasse et de drones, l'armée israélienne affirme avoir conduit un raid ciblé dans la région centrale de la bande de Gaza. L'attaque a visé des rampes de lancement de roquettes et des centres de commandement du Hamas. Plusieurs combattants du mouvement islamiste ont été neutralisés. De son côté, l'ONU prévient « Beaucoup plus de gens vont bientôt mourir dans la bande de Gaza, car les réserves de médicaments, de nourriture et d'eau s'épuisent dans l'enclave. » De son côté, Emmanuel Macron a réagi depuis Bruxelles. Il demande une trêve humanitaire. 4 mois après les violences urbaines de cet été, Elisabeth Borne a pris la parole ce midi à Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. La première ministre a présidé un comité interministériel des villes et a dévoilé des mesures pour aider les quartiers populaires Prunay-Vémanie.
Avec un objectif, favoriser la mixité sociale. Elisabeth Borne demande au préfet de ne plus attribuer de logements aux ménages les plus en difficulté dans les quartiers prioritaires pour réduire les inégalités entre ces zones et le reste du territoire. L'écologie était aussi au centre des propositions, 15% du fonds vert débloqué pour ces quartiers afin d'accélérer la transition écologique. La rénovation doit aussi être une priorité, annonce la première ministre, qui prévoit un grand plan de réhabilitation des copropriétés dégradées. 24 nouveaux quartiers bénéficieront de 250 millions d'euros pour des opérations de rénovation plus vertes. Et puis 300 millions d'euros pour remobiliser les publics les plus éloignés de l'emploi. La première ministre annonce aussi l'ouverture de 100 crèches et 60 centres de santé.
Le sort des soulèvements de la Terre sera décidé aujourd'hui par le Conseil d'État. Le collectif écologiste avait été dissous en juin par le gouvernement. Dissolution suspendue par une première décision du Conseil d'État en août. L'audience d'aujourd'hui cherche à déterminer si ces militants ont bien été coupables d'appel à la violence. Le Conseil constitutionnel a validé un projet d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse. Les sages précisent toutefois qu'à l'avenir, les lois devront prendre en compte le droit des générations futures à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Le contrôle technique des motos, c'est pour avril.
Tous les véhicules motorisés à deux ou trois roues immatriculés avant 2017 sont concernés, une mesure qui ne passe toujours pas auprès des motards comme ici à Grenoble.
Je suis contre parce que c'est des formations supplémentaires qu'il va falloir faire passer aux contrôleurs techniques. Il va y avoir des vérifications à faire sur leur permis de conduire. Et puis on nous met un contrôle technique sous prétexte qu'un motard fait relativement beaucoup de bruit. Il va peut-être falloir penser à la sécurité des usagers de la route en premier au lieu de s'occuper des contrôles techniques des motos.
Nous ne sommes pas assez stupides pour l'accepter parce que c'est nous, notre vie qui est en jeu quand on est sur nos motos. Alors vous imaginez bien que les pneus sont bons, les freins aussi, la lumière. On ne va pas prendre de risques comme dans les voitures où on est protégé par une carcasse.
Moi je trouve ça un petit peu abusé. Parce que en tant que motard, j'ai modifié ma ligne par exemple sur ma 125 et ça va être un petit peu embêtant pour le contrôle technique parce qu'il va falloir remodifier les réglages carbu pour réadapter à la ligne d'origine et ça peut vite monter très cher.
Des propos recueillis par Maxime Pérez. une série de médicaments déboucheurs de nez à nouveau épinglés par l'ANSM. Actifène, Humex, Nurofen et autres vasoconstricteurs présentent un risque très faible mais non négligeable de crise cardiaque et d'AVC. En officine, ils ne sont plus en accès libre. C'est aux pharmaciens de voir s'il est nécessaire pour vous de prendre ce type de médicaments, comme nous l'explique Ryan Saïd-Omar. Il est pharmacien à Grenoble.
Les pharmaciens ont fait 6 ans d'études. C'est pour pouvoir justement avoir leur libre arbitre et de savoir conseiller ou pas d'ailleurs les médicaments vasoconstricteurs en posant les bonnes questions aux patients et savoir si le médicament est adapté ou non. Quels sont les traitements qu'ils prennent? Est-ce qu'il y a des traitements chroniques? Avez-vous des antécédents cardiaques dans la famille? Toutes ces questions-là peuvent être posées au comptoir.
Des propos recueillis par Odéphine Leleu. 3 millions de boîtes de ces médicaments sont vendues en France chaque année.
Appel aux jeunes, il manque des animateurs dans les centres de loisirs.
30 000 postes d'animateurs périscolaires sont à pourvoir en France. À Fontaine en Isère, les parents sont en colère, Maxime Pérez.
Pierre Béra est père d'un enfant de 3 ans. Il dénonce une bataille avec le site d'inscription de la mairie, où les places partent en moins de 15 minutes. Il a même lancé une pétition recueillant plus de 300 signatures.
C'est catastrophique, on se retrouve à chercher des solutions qui n'existent pas vraiment. Il faut, pendant les périodes de vacances, poser des congés sans solde ou bien faire appel pour ceux qui le peuvent à nos anciens, aux grands-parents qui sont parfois âgés ou en difficulté ou qui n'ont pas la capacité de garder les enfants. On reste des parents qui avons besoin d'aide.
Un appel au secours que la ville de Fontaine dit entendre. Julien Bouvier, adjoint au maire, évoque un déficit de 120 places dans les centres de jeunesse. Pour lui, 3 facteurs expliquent cette situation.
Le premier, c'est effectivement la pénurie d'animateurs au niveau national. Le second, c'est le fait que la politique ne s'en est saisie qu'à partir de 2020. Et puis la troisième, c'est le fait que nos 3 directrices partent en même temps. Là, au moment de l'automne.
Parmi les solutions sur la table, Fontaine souhaite former et recruter davantage de jeunes animateurs. Elle a par ailleurs créé 9 postes de directeurs adjoints dans les centres de loisirs et réfléchit désormais à une augmentation de salaire des animateurs qui très souvent se trouvent en dessous du SMIC.
À Fontaine, 20 postes sont vacants en structure d'accueil de jeunesse. Le 40e album d'Astérix et Obélix est sorti hier en librairie. L'Iris Blanc est une collaboration entre le dessinateur Didier Conrad, qui a succédé à Uderzo, et pour la première fois, Fab Caro au scénario. Un nouvel album très attendu par le public. Manon Tronville est responsable de la librairie Glénat à Grenoble.
Je pense que la particularité peut-être de celui-ci, c'est qu'il y a Fab Caro qui a participé et qui est scénariste sur la bande dessinée. Donc effectivement, je pense qu'on attend peut-être un engouement encore plus important, étant donné que Fab Caro participe. Maintenant, ça reste ce qu'on appelle une année Astérix. Donc de toute façon, c'est une très bonne année parce que Astérix, c'est toujours un événement quand il y a une nouvelle BD qui sort. Qu'on aime la BD, qu'on l'aime pas, en fait, Astérix, c'est le patrimoine.
Des propos recueillis par Odéphine Leleu, l'Iris Blanc a d'ores et déjà été imprimé en 5 millions d'exemplaires et traduit en 20 langues. En rugby, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontent ce soir pour la 3e place du podium de la Coupe du Monde. Le coup d'envoi de la petite finale sera donné à 21h au Stade de France.
Merci Joshua Mitivier. Dans quelques minutes, on fait le bilan de cette Coupe du Monde de rugby en France avec Clément Métainier. On reviendra sur les points positifs et négatifs de cette organisation. Il est 16h38, vous écoutez Microcité sur Radio Campus 90.8.
L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? 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 C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était l'Oli, c'était l'Oli, c'était l'Olo, c'était l'Ola, c'était l'Oli, c'était l'Olo, c'était l'Ola, c'était la goffa Lolita. C'était l'Oli, c'était l'Olo, c'était l'Ola, c'était l'Oli, c'était l'Olo, c'était l'Ola, c'était la goffa Lolita.
et j'attrape Lolita et je me prends une chapate. Car les femmes du 20e siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? 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 C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? C'était Loli, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la goffa Lolita. C'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était Loli, c'était Lolo, c'était Lola, c'était la goffa Lolita.
Vous êtes bien à l'écoute de Microcité, il est 16h41, c'était la Gofa Lolita, l'un des hymnes du rugby. Justement, le rugby et la Coupe du Monde organisée en France, on en parle tout de suite.
Le dossier de la semaine, spéciale Coupe du Monde de rugby.
La Coupe du Monde de rugby, c'est bientôt fini. Dans un peu plus de 24 heures, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud s'affronteront en finale sur la pelouse du Stade de France. Le vainqueur repartira avec le trophée Webb Ellis. Mais avant ce match au sommet, on fait le bilan de ce mois de rugby avec vous, Clément Métainier. Bonjour.
Bonjour Valentin. Après 51 jours de compétition et 48 matchs disputés dans 9 villes françaises, la 10e Coupe du Monde de rugby touche à sa fin. Performance historique, score fleuve, surprise et désillusions, c'était la Coupe du Monde de rugby 2023 organisée en France.
Et quand on pense Coupe du Monde de rugby, on pense bière et justement le tournoi a battu un record.
Lors du match entre l'Irlande et l'Écosse, 137 000 pintes ont été vendues, soit près d'un litre de bière par spectateur, un record au Stade de France. Mais il n'y a pas que dans les stades que la bière a coulé à flot au défi de Leleu.
À Grenoble, les bars ont revu à la hausse leurs commandes de bière en vue de la compétition. Jonathan Calvo au Pox Pub a fait le calcul.
En moyenne, c'était deux fûts et demi par match, à peu près. Donc ce qui correspond à 30 litres de bière par fût, soit une soixantaine de litres en moyenne. C'est plus qu'une soirée normale, en effet.
Même constat pour Fabrice de la Rochette, patron du 1900.
Évidemment, on a commandé plus de bière parce que la bière, c'est ce qui parle le plus. J'ai commandé en gros 20% de bière en plus parce que je jaugeais que c'était ce qui me fallait. Et c'était ça. Si la France, par contre, avait continué, demi-finale et finale, là, ça aurait été bien plus important.
Alicia Kerkash, responsable autono de Diogène, a bien vu l'engouement des supporters.
On a un effet Coupe du Monde où les gens consomment beaucoup plus que d'habitude et encore plus si la France gagne. On a forcément commandé un tout petit peu plus de fûts à chaque semaine où il y avait des matchs avec la France.
Une hausse qui se vérifie dans les commandes au bar.
On devait quand même vendre entre 200 ou 300 pintes de plus que d'habitude. Ça consomme pas mal, hein. Ils prennent des pichets surtout, ils prennent pas une seule pinte.
Dans les commandes, une bière s'est démarquée.
La Gallia Accès France pour la Coupe du Monde de rugby. Elle est aux couleurs bleu, blanc, rouge. Elle est super agréable à boire, elle est assez légère, elle est très bonne. On en a vendu pas mal.
Malgré la défaite de la France, les bars s'attendent à une finale réussie samedi.
Si les gérants de bar ont le sourire, c'est moins le cas de l'organisation. Les chiffres ont été revus à la baisse, alors que France 2023 espérait générer 68 millions d'euros de bénéfices nets. On n'y est pas tout à fait, Emma Julie.
On serait plutôt autour de 50 millions d'euros de bénéfices pour France 2023. Dans le détail, la Coupe du Monde a rapporté 750 millions d'euros. Plus de la moitié vient de la billetterie. 10% vient des produits marketing, ça comprend les sponsors et les produits dérivés. Les 36% restants viennent des hospitalités. Ce sont des offres, tout compris, logement, match et transport pour les supporters. Ça, c'est ce que France 2023 a gagné. Mais il faut soustraire le coût de l'organisation. À cause de l'inflation, les dépenses ont été plus importante que prévu, environ 400 millions d'euros. France 2023 a aussi dû reverser 400 millions à World Rugby. Pour que les comptes soient à l'équilibre, l'État et les collectivités ont réinjecté 90 millions d'euros.
Les comptes de l'organisation de la Coupe du Monde se portent donc moins bien que prévu, Clément.
Mais par contre, l'argent généré par les supporters présents est bien au rendez-vous, notamment dans les hôtels. Pendant la compétition, Alexandra était chargée de l'accueil des supporters à l'hôtel Première Classe de Lyon-Est.
On avait beaucoup d'Australiens, beaucoup de Nouvelle-Zélande, des clients très dépensiers d'ailleurs. Nous, on a augmenté nos tarifs sur les jours de match. Ça a rapporté plus de 40 000 euros. Ça nous a fait quand même un bon billet en plus. C'est quand même des gens pas mal aisés qui venaient, hein, parce qu'il y en a plusieurs avec qui on a discuté, qui nous disaient qu'ils venaient pour tous les matchs, donc déjà les matchs, c'était quand même une belle somme à dépenser. Ils voyageaient beaucoup en groupe, c'était pas des chambres individuelles, hein. Souvent ils étaient par groupe de 10. En général, soit entre amis, soit famille. Hein. Il y en a beaucoup qui étaient en road trip sur l'Europe.
Ça fait donc beaucoup de supporters à accueillir.
Plus de 4 millions de personnes ont assisté à au moins un match. Des fan zones ont également été mises en place, comme à Toulouse, où elle a accueilli jusqu'à 40 000 personnes par match. Une sorte de répétition générale à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, avec le déploiement d'un dispositif de sécurité exceptionnel au défi de
Gérald Darmanin avait prévenu, les Bleus seront sur le terrain. Le ministre de l'Intérieur parlait bien sûr des 5 000 policiers et gendarmes mobilisés en moyenne pour chaque match, aux abords des stades, transports et fan zones. Pour la cérémonie d'ouverture, ils étaient 7500 autour du Stade de France. On ajoute l'achat de plus de 500 caméras de vidéosurveillance installées aux abords des villages rugby dans 29 villes. Une flotte de drones a même survolé le ciel francilien. Avant la compétition, une centaine de plans zéro délinquance ont été organisés. Résultat, 47 000 interpellations au total, visant surtout les points de deal.
Un dispositif de sécurité impressionnant donc, renforcé pour les quarts de finale.
Oui, car entre-temps, la France est entrée en urgence attentat. Après l'assassinat de Dominique Bernard, professeur à Arras le 13 novembre, 3 000 effectifs de police supplémentaires ont été ajoutés à Saint-Denis et Marseille pour les matchs de quart. Mais pas de hausse des contrôles dans les stade, déjà au niveau maximal avec Vigipirate. Décision de Jacques Rivoal, président du comité d'organisation de la Coupe.
Aucun incident majeur n'a été déclaré et les supporters ont fait perdurer un esprit festif.
Ouais, l'esprit festif, Clément, on l'a surtout vécu. Les supporters ont repris une chanson qu'on a entendue partout depuis début septembre, Dans les yeux d'Émilie de Joe Dassin.
Oui, c'est devenu l'un des hymnes du rugby pendant un mois et demi. Retour sur l'origine d'une chanson qui n'était pourtant pas destinée à résonner dans les stades. Prune Ave Mani.
Si je te fais écouter
dans
cette musique...
Quartier.
Ça te fait penser à quoi ?
À la Coupe du Monde. C'était quand même l'hymne de l'équipe de France. Donc.
J'ai découvert un match Toulon-Toulouse. Il passait cette musique en boucle et les chants chantaient debout sur le comptoir.
En 1977, Joe Dassin sort son tube Dans les yeux d'Émilie pour l'album Les femmes de ma vie. Pendant 30 ans, la chanson se fait discrète, puis revient il y a 10 ans dans les fanfares du Sud-Ouest. À Grenoble, elle est devenue un incontournable pour la fanfare de la BAM dont Oriane fait partie.
Je dirais qu'elle est hyper entraînante. Il y a un refrain qui est hyper entêtant et tout le monde le connaît finalement. Ça a toujours un super effet sur le public, tout le monde danse, chante.
Une chanson qui a trouvé sa deuxième destinée dans les stades, entonnée d'abord par les supporters dans des matchs de basket puis de rugby. Joël Julie est spécialiste de la chanson française.
Dans les contextes populaires où on a besoin de chanter ensemble et on a besoin de faire du collectif, ce type de chanson est assez valorisé.
Aujourd'hui, Émilie, c'est comme si tout le monde la connaissait. Pourtant, personne ne sait rien d'elle, même pas Claude Lemel, compositeur de la chanson.
On a choisi Émilie parce que le prénom sonnait bien sur la musique. Voilà. On l'a inventé. On parle beaucoup de soleil dedans, mais c'est quand même une chanson qui se passe au passé. Hein. C'est une histoire d'amour qui se termine mal. Hein. Vous savez, Joe Dassin disait toujours « Tout le monde croit que je chante mes chagrins d'amour, c'est pas vrai, je chante les chagrins d'amour de Claude Lemel. » Voilà. C'était pas tout à fait faux.
Si cette histoire d'amour avec une mystérieuse québécoise n'a jamais détrôné les titres incontournables de Joe Dassin, comme l'Amérique ou l'été indien, elle a quand même connu un petit succès à l'époque.
La première fois que Joe a chanté à la télé, j'étais avec Michel Polnareff en train de travailler, et il a dit « Oh, elle est bonne cette chanson, elle est superbe. » Mais bon, là, cette histoire de Sud-Ouest, de Bayonne, etc., et de rugby est totalement inattendue et, à vrai dire, inexplicable. Quand j'en parle aux Québécois, ils hallucinent, hein, forcément. Le destin des chansons nous échappe totalement. Ce que ça devient, bah, c'est le public qui décide. Là, il a décidé ça. Bon, évidemment, je suis très content.
Alors, cette chanson est devenue un hymne. Et même si on oublie parfois pourquoi elle a été écrite, une chose est sûre, c'est qu'elle est désormais rentrée dans le patrimoine.
Microcité en direct jusqu'à 17h.
La Coupe du Monde 2023 est la plus suivie de tous les temps, Clément Métainier.
Oui, dans les gradins ou devant leur télé, les supporters ont répondu présents. Et dans les clubs de rugby, on espère que cet engouement se traduise en inscriptions. Après la Coupe du Monde 2007, le nombre de licenciés avait augmenté de plus de 20% en France. Mais au rugby club de Cessin, près de Grenoble, on est un peu déçu, Joshua Métivier.
Depuis la rentrée en septembre, le rugby club cessinois a enregistré une quinzaine de nouvelles inscriptions. Pas autant que l'aurait souhaité Romain Di Raphaël, responsable de l'école de rugby.
Tout le monde en parlait beaucoup, mais il n'y a pas eu ce pas en avant qui dit « allez, j'aime le rugby et je vais en faire ». On a beaucoup d'enfants qui en parlent et qui parlent de l'équipe de France et tout à l'école, mais pas beaucoup d'enfants qui se sont inscrits derrière en club.
Nicolas joue dans l'équipe des moins de 12 ans. Pour lui, c'est la faute des parents.
Moi, il y a une copine qui veut faire du rugby, mais ses parents ne veulent pas parce que ils ont peur qu'elle se fasse mal.
Une peur, bien sûr, complètement infondée.
Quand on a mal, après, ça passe, tu l'oublies et tu revas et tu vas essayer de faire un gros plaquage parce qu'il t'a fait mal. Mais pas lui remettre un coup de poing comme au foot.
Julien est aussi en U12. Il compte sur les futures victoires du 15 de France pour attirer les jeunes au rugby.
Plus ça monte, plus c'est populaire. Du coup, il y en a plus... plus en plus qu'ils en font.
En attendant, il reste la finale de la Coupe du Monde et tout le monde ici sera derrière la même équipe.
La Nouvelle-Zélande.
Et évidemment, Clément, la Coupe du Monde, c'est aussi le terrain.
Oui, Florent Côté, journaliste de sport au Dauphiné Libéré, et il a suivi cette Coupe du Monde de rugby. Avec vous, Valentin, il revient sur les faits marquants de ce mois de compétition.
Oui, les Coupes du Monde réservent toujours des surprises, et celle de 2023 n'y a pas échappé, et nous a réservé la sienne.
Je pense qu'on peut dire que la principale surprise, ça a été à la fois la qualification des Fidji, qui ont réussi à surprendre l'Australie au terme d'un très bon match. Ils ont fait preuve de beaucoup de rigueur sur ce match-là pour battre les Wallabies, qui eux sont la mauvaise surprise de la compétition. Pour la première fois, ils sont pas en quart de finale.
Comme en 2019 et 2015, le 15 de France s'est arrêté en quart de finale. Une déception pour tous les Français et pour le journaliste.
On attendait forcément mieux, surtout que l'équipe de 2023 était bien plus forte que celle de 2019 et encore plus que celle de 2015. On n'a pas été éliminé par n'importe qui. On a perdu contre les Springboks, qui sont les champions du monde en titre. Et on perd d'un point, ce qui veut dire que c'est pas une énorme contre-performance. C'était une affiche d'une demi-finale, voire d'une finale. Et ça s'est arrêté deux semaines trop tôt.
La France, l'Irlande, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande étaient les quatre nations favorites de cette compétition. L'affiche aurait donc très bien pu être différente, mais celle-ci lui va aussi très bien.
Ça reste quand même une finale de rêve parce que c'est deux des équipes mythiques, si ce n'est les deux grandes équipes mythiques, les All Blacks et les Springboks en rugby. Les conditions de jeu vont certainement influer. On a vu que sous la pluie, les Sud-Africains n'étaient pas à l'aise. Les Néo-Zélandais sont une équipe certainement mieux outillée pour faire du jeu. Ça pourrait bien se jouer sur des détails.
Et justement, la pluie pourrait bien s'inviter demain sur la pelouse du Stade de France. Et Clément, on aura notre réponse.
La Nouvelle-Zélande va donc disputer une cinquième finale de Coupe du Monde, un record dans la compétition. Chez les Kiwis, tout le pays se prépare pour ce grand rendez-vous. Installé à Auckland depuis 5 ans, Olivier Baudy est au plus près des supporters néo-zélandais. Bonjour Olivier. D'abord, comment est-ce qu'on suit cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande malgré les 11 heures de décalage horaire ?
Bonjour Clément. Eh bien, effectivement, il y a un petit décalage horaire. On a eu les matchs... à 7h du matin, et puis ensuite on a eu à 8h du matin, et puis bien sûr tous les matchs qui passaient à 3h de l'après-midi en France étaient ici 2h du matin, donc c'était pas très facile, mais on s'y fait quoi.
Et pour suivre les rencontres aussitôt, comment font les fans néo-zélandais pour se retrouver ?
On est allé dans un pub pour le premier match de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande. Les bars en général ouvrent assez tôt quand même en Nouvelle-Zélande. Et là, en fait, pour l'événement, ils ouvrent une partie de leur salle avec mise à disposition d'écrans télévision. Et bien sûr, ils te servent un petit déjeuner spécial pendant lequel tu ne bois pas forcément que du jus d'orange. Tu peux aussi boire de la bière ou une petite coupette de pétillant si ça te fait envie. Voilà. Et du coup, l'ambiance est assez sympa pendant les matchs au pub.
Et quel est l'état d'esprit avant cette cinquième finale mondiale pour les All Blacks et comment le pays se prépare ?
Les Néo-Zélandais sont assez positifs en général. Puis surtout, il y a ce petit côté maori, ce petit côté guerrier qui fait qu'ils ne sont pas prêts à lâcher le morceau. À titre d'information, l'Eden Park, donc le stade officiel des All Blacks à Auckland, donnera le match en direct sur écran géant et l'Eden Park est d'ores et déjà complètement booké.
Et vous, Olivier, comment allez-vous vivre cette finale de Coupe du Monde ?
Eh bien, on va aller chez les amis kiwis. On sera donc 14, dont 12 kiwis. On va faire les œufs, les saucisses et on va regarder le match avec un bon barbecue.
Merci Olivier Baudy depuis Auckland en Nouvelle-Zélande. Et en Afrique du Sud aussi, la tension monte et les supporters poussent les Springboks pour tenter de décrocher un quatrième sacre mondial. Installé depuis un an au Cap, Mathieu Métivier vit au rythme du mondial avec la population sud-africaine. Bonjour Mathieu, pouvez-vous nous décrire l'ambiance au Cap en Afrique du Sud ? Comment on se prépare à quelques heures du match tant attendu ?
Bonjour Clément. Écoutez, c'est un peu un rythme paradoxal puisque en fait il y a tradition ici au Cap, en Afrique du Sud en général, que le vendredi avant tous les matchs des Springboks, tout le monde s'habille en vert ou du moins tout le monde porte le maillot des Springboks, que ce soit les gens qui sont dans les magasins, que ce soit les gens qui vont au bureau, au travail ou à l'école. Avant un match des Springboks, tout le monde s'habille en vert.
Demain, les Springboks vont tenter de décrocher un deuxième titre mondial consécutif. Donc en plus des maillots verts, on imagine que l'ambiance va encore monter d'un cran.
On n'a pas l'habitude que les matchs commencent à 21h. Pour nous, les matchs de rugby, c'est les après-midi, c'est 15h. Du coup, on a l'habitude de faire des barbecues à partir de 13h, de migrer vers le stade à 14h, de commencer à regarder le match de rugby à 15h, vraiment. Alors que là, le match se passe le soir, et ça fait juste rendre la fête plus longue au final. Je sais qu'il y a les rues du centre-ville du Cap qui vont être totalement bouclées, qui vont être piétonnisées avec des écrans géants au milieu de la ville. Ça va être extraordinaire, c'est du jamais vu. Les stades de rugby vont être reconvertis en immense amphithéâtre avec des écrans géants également, au Cap, à Johannesburg, à Pretoria. C'est potentiellement 50 à 60 000 personnes dans un stade pour regarder le match. Et la fête va commencer très très tôt. Et quoi qu'il advienne, la fête va se prolonger jusque très très tard.
On a bien compris l'ampleur des festivités. Et pour parler un peu de terrain, comment est-ce qu'on aborde ce choc face aux All Blacks ?
Non, je ne veux pas manquer de respect aux autres adversaires qu'on a eus, mais les All Blacks sont l'adversaire numéro 1 historique de l'Afrique du Sud. C'est ceux qu'on a battus en 1995, c'est ceux contre qui on a perdu en 2015, si je ne me trompe pas, c'est ceux contre qui on a perdu encore une fois en 2019, et là on a l'occasion une nouvelle fois de les battre en finale. Enfin, c'est vraiment un match qui est déjà historique, quel que soit le résultat, et du coup il y a un peu ce qui est de surtout ne pas manquer de respect à l'adversaire contre qui on fait face, et c'est aussi une question de personnalité.
Des propos que vous avez recueillis hier, Clément.
Oui, on le rappelle, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ont rendez-vous demain soir au Stade de France pour la finale de Coupe du Monde de rugby. Le coup d'envoi sera donné à 21h par l'arbitre anglais Wayne Barnes. Et la France va passer le flambeau à l'Australie, organisatrice de la Coupe du Monde 2027, avec un passage de 20 à 24 équipes.
Merci Clément. D'ici là, vous pouvez suivre ce soir la petite finale entre l'Argentine et l'Angleterre à partir de 21h. En octobre, on pense aussi forcément à Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein. Pour se soigner, 40% des femmes sont amenées à se faire retirer le sein malade. La chirurgie peut le reconstruire, mais c'est aussi souvent impossible de garder le mamelon. Mais au centre Place à Elle, à Grenoble, il y a une solution. Emma Julie a rencontré Amélie Gratier. Elle redessine des tétons grâce au tatouage et le résultat est bluffant.
On va avoir l'illusion d'un mamelon, c'est très très réaliste. C'est un tatouage en 3 dimensions, donc il n'y a absolument pas de volume, il n'y a rien du tout. C'est simplement un jeu de lumière, jeu de profondeur, d'ombrage. C'est des encres, tout ce qu'il y a de plus basique, avec un panel de couleurs. On va partir de beige rosé à des beiges plus chaud, on va venir se calquer sur la carnation de la personne. On va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à positionner l'aréole et on va prendre beaucoup de temps pour choisir les teintes.
Amélie Gratier est infirmière et elle s'est formée au tatouage pour allier son métier à sa passion pour l'art.
Je suis de formation littéraire à la base, même plutôt artistique. Aiguiser son œil à la couleur, à la colorimétrie, ça c'est quelque chose que je maîtrisais déjà. J'étais partie pour faire de la restauration d'œuvres d'art. Je suis pas très très loin parce qu'elles sont, c'est des œuvres d'art ces femmes-là.
Le tatouage dure 1 heure mais Amélie reçoit ses patientes 3 fois en tout. Pour elle, les séances ont aussi une dimension thérapeutique.
C'est vraiment des étapes dans la fermeture du livre. C'est des étapes qui aident à retrouver confiance en soi, à se redécouvrir. La 3e séance, là, c'est celle que je préfère toujours. C'est celle où on vient mettre les détails. Et, alors là, on reste devant le miroir. Pour des femmes qui, parfois, ne voulaient même plus regarder dans le miroir. Des fois, la personne va rigoler. Mais c'est nerveux, en fait. C'est nerveux. Et là, du coup, moi, je m'attends pas du tout à ça. Du coup, je dis « Ah !» Et après, du coup, boum, après, ça redescend. Et la seule chose que je retiens, c'est que c'est des nanas extra. C'est la seule chose que je retiens. Puis qu'à chaque fois, faut pas trop que j'en parle, parce qu'après, ça me fait pleurer. Donc, voilà.
Ses patientes, Amélie les surnomme des warriors. Magali Bachasson est l'une d'entre elles. En mars 2022, son médecin lui a appris qu'elle avait un cancer du sein.
Il dit « Bah, en fait, on va faire une mastectomie. Donc, je vais vous enlever votre sein. » avec une reconstruction immédiate avec la prothèse mammaire. Le docteur Desmond m'annonce que mon mamelon était trop près des cellules cancéreuses, donc il décide de ne pas le garder.
Un an plus tard, Magali a choisi de recréer son mamelon grâce au tatouage parce que la chirurgie, elle n'en pouvait plus.
Refaire une aréole, vraiment à prendre les petites lèvres du bas pour reconstruire mentalement. Avec la chirurgie que j'avais subie déjà, pour moi, c'était pas possible. Il fallait que mon corps se repose, en fait.
Magali a fini son tatouage il y a 2 semaines et maintenant, elle tourne la page.
La première fois, je me suis regardée dans la glace et que j'ai vu le tatou 3D, les larmes, vous pensez bien qu'elles me sont montées à l'œil et que j'ai quand même versé ma larme d'émotion en me disant « ça y est, t'es guérie et ça va aller, quoi ». Je deviens une nouvelle femme. Je me suis reconstruite à 40 ans. Allez, on repart sur une deuxième vie, en fait.
C'est la fin de cette 5e émission de Microcité. Merci d'avoir été à l'écoute de Radio Campus. Attention, pas d'émission la semaine prochaine. On se retrouve le 10 novembre, même endroit, même heure. On vous souhaite une très bonne soirée et un bon week-end.